Cham philo.
Parce qu'au lycée, la philosophie ne se trouve pas seulement dans les manuels.
Cham philo.
Elle résonne dans chaque question, dans chaque débat de la vie quotidienne.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Cham. Nous nous retrouvons sur notre émission Cham philo avec un nouveau sujet. En quoi la liberté individuelle peut-elle être en tension avec la nécessité de vivre en société ? Avec nous, Édouard Engels, professeur de philosophie au lycée, pour nous répondre. La réalisatrice Chloé Zhao propose un film social et politique en 2020, inspiré d'un reportage publié dans un livre du même nom, Madland, 3 ans plus tôt. Le film met en scène Frances McDormand et plusieurs Américains qui jouent leur propre rôle de nomades. Ces nomades sont des Américains, souvent ayant l'âge d'être à la retraite, mais à faible revenu, de sorte qu'ils gagnent leur vie en conduisant d'un endroit à l'autre du pays pour des emplois saisonniers.
Ma mère dit que vous êtes sans abri, c'est vrai ?
Non, je suis pas sans abri, disons plutôt sans maison. T'en fais pas, tout va bien. Mon mari a travaillé à USG, la mine de gypse à Empire, et j'ai enseigné à l'école comme institutrice.
Les temps sont durs actuellement. Je vous invite à envisager une retraite anticipée.
Je dois travailler. J'aime travailler.
Comment tu l'as appelé ton van ?
Vanguard.
L'avant-garde, c'est puissant.
C'est tout lui.
Tu es ma sœur. Au fur et à mesure que tu grandissais, tu passais pour une excentrique aux yeux de la plupart. C'était parce que tu étais plus courageuse.
Ce film questionne notre volonté de vouloir mener notre vie de manière individuelle, de vouloir agir selon nos envies et nos désirs, alors que nous sommes pourtant contraints par la société par plusieurs aspects. Les philosophes ont-ils pensé et défini cette relation contradictoire entre la société et notre volonté individuelle ? En quoi la liberté individuelle peut-elle être en tension avec la nécessité de vivre en société ?
Alors, commençons par définir effectivement les termes qui sont en jeu. Ici, on a une tension entre la liberté individuelle et le fait que nous sommes des êtres sociaux qui vivent donc ensemble dans ce qu'on appelle la société. Commençons d'abord par la liberté individuelle. La liberté, c'est le pouvoir d'agir selon ses propres choix, selon ses propres désirs, sans être entravé par des contraintes extérieures. Spontanément, que ce soit donc quand on cherche le bonheur, quand on cherche simplement à faire des choix quotidiens, nous exerçons librement notre volonté. On a ici ajouté à la liberté le terme individuel, qui précise que cela nous détermine en tant que personne. C'est-à-dire qu'en fait, notre liberté ici nous engage individuellement, elle nous définit et surtout elle nous rend responsable de chacun de nos choix. La liberté individuelle a cela de plus précis par rapport à la simple liberté qu'elle s'applique donc à l'individu, à la personne. D'autre part donc, la nécessité de vivre en société. Nous vivons ici donc ensemble dans ce qu'on appelle la société. La société, c'est effectivement la communauté que forment les êtres humains, avec les institutions que cela suppose, avec les organisations qui sont également en jeu. Et on a ici une première définition de l'être humain qui apparaît comme étant ce qu'on pourrait appeler un animal politique. C'est en effet ce que Aristote dit dans l'écrit qui s'appelle La Politique, où il affirme que l'être humain se définit avant tout comme étant un être qui obtient et qui atteint son plein potentiel au sein d'une communauté humaine. On a besoin en fait de vivre en société, on a besoin de se donner des règles, respecter des normes qui permettent ce qu'on appelle le vivre ensemble. Et cette volonté qu'on a de faire société, bien que l'on pourrait vouloir faire ce que l'on veut, en réalité nous sommes pris donc ici dans une nécessité qui est de devoir faire société, de devoir respecter des normes en commun.
Alors un philosophe explique cela avec une fable très amusante, bien que tragique. C'est le penseur Arthur Schopenhauer et sa célèbre fable des porcs épics. Par une froide journée d'hiver, un troupeau de porcs épics s'était mis en groupe serré pour se garantir mutuellement contre la gelée par leur propre chaleur. Mais tout aussitôt, ils ressentirent les atteintes de leurs piquants, ce qui les fit s'écarter les uns des autres. Quand le besoin de se réchauffer les eut rapprochés de nouveau, le même inconvénient se renouvela, de sorte qu'ils étaient ballottés de ça et de là, entre les deux maux, jusqu'à ce qu'ils eussent fini par trouver une distance moyenne qui leur rendit la situation supportable. Ainsi, le besoin de société, né du vide et de la monotonie de leur vie intérieure, pousse les hommes les uns vers les autres. Mais leurs nombreuses manières d'être antipathiques et leurs insupportables défauts les disperse de nouveau. La distance moyenne qu'ils finissent par découvrir et à laquelle la vie en commun devient possible, c'est la politesse et les belles manières.
Effectivement, ici, voilà, Schopenhauer propose en fait une illustration dans laquelle on voit une tension à l'œuvre entre les êtres humains, leur besoin donc de devoir vivre chacun de leur côté en ayant chacun leur individualité, chacun leurs besoins propres, chacun leurs envies, leurs volontés, qui donc se veut un petit peu égoïste, mais en tout cas qui est nécessaire aussi. On a besoin effectivement chacun d'avoir notre propre cocon, notre propre sphère, sauf qu'en même temps, nous avons ce besoin d'être avec d'autres personnes. Et là, le problème, c'est qu'il y a des tensions qui apparaissent, puisque nous ne sommes pas tous pareils. Nous rentrons ici un petit peu en contradiction les uns avec les autres, et cela fait qu'on se blesse un petit peu les uns les autres par cette vie en société. Donc, la vie en société nous est rendue nécessaire parce qu'on a besoin des autres, ne serait-ce que à travers les différents services que l'on se rend, à travers notre travail qui permet donc d'assurer la continuité du quotidien. Mais cette vie en société peut aussi être peu supportable puisqu'elle nous pèse, elle peut nous blesser et nous rendre malheureux.
Selon cette position, est-ce que vouloir vivre en dehors de la société, s'échapper de toute contrainte et de toute relation aux autres, est souhaitable? Dans Nomadland, Fern est dans un conflit interne et semble ne pas vouloir quitter sa nouvelle vie en itinérance. De nombreux amis lui proposent d'habiter chez eux. Sa sœur lui demande même d'arrêter cette existence de nomade. Ce que Fern semble refuser.
On a en effet l'impression, donc dans le film, où Fern se trouve donc contrainte de vivre dans son van et de devoir travailler chez Amazon pour les fêtes de Noël, puis de passer de petit boulot en petit boulot à travers les États-Unis. On a l'impression que Fern se sent un petit peu libre, elle est contrainte par cette situation économique un peu compliquée, mais en même temps, elle semble trouver une forme d'accomplissement personnel et d'indépendance. Ce qu'on remarque ici dans cette situation, c'est qu'en même temps, il y a une tension qui est que Fern a besoin d'être avec d'autres personnes pour pouvoir communiquer, pour pouvoir résoudre des problèmes, pour pouvoir aussi tout simplement trouver un support émotionnel, trouver une forme d'équilibre en fait. Ce qui signifie que même si les relations sociales provoquent effectivement des blessures chez chaque individu, on ne peut pas mener sa vie seule. Fern n'est d'ailleurs pas si indépendante que cela, puisque donc quand elle vit sa vie de nomade, en fait elle trouve de l'aide à travers des communautés de nomades qui s'entraident, qui font des réunions chaque année, des sortes de grandes fêtes avec des quasi-rituels qui montrent bien que l'être humain a besoin des autres pour vivre. La notion d'animal politique d'Aristote se retrouve bien ici, puisqu'on a cette nécessité pour trouver un équilibre dans notre vie de devoir faire communauté, de devoir vivre en société.
Cependant, notre liberté individuelle peut parfois entrer en conflit avec les règles et les normes de la société. Si Fern, dans Nomadland, est contrainte de vivre dans son van, c'est parce que le système américain ne peut pas prendre en charge une pension de retraite suffisante.
En effet, il y a ce deuxième aspect du film ici qu'on doit traiter, c'est que Fern n'a pas choisi cette existence de nomade. C'est bien le fait que son mari étant décédé, sa situation donc de retraité précaire étant ce qu'elle est, elle n'a pas la possibilité de faire autrement. Donc ici, on a un problème qui est que la société va avoir aussi des impacts sur notre vie et sur donc la façon dont on se comporte les uns avec les autres. Le fait que nous fassions société, en fait, ça s'appuie un petit peu sur cette situation donc d'inégalité qu'on a un petit peu tous les uns envers les autres. Et on a un penseur qui s'appelle Thomas Hobbes qui, dans le Léviathan, c'est le nom de son livre, décrit justement de quelle manière est-ce que l'être humain finalement est contraint de faire société et est contraint finalement d'aliéner un petit peu sa liberté. Pour Thomas Hobbes, nous sommes naturellement des êtres en concurrence les uns avec les autres. Il nomme ici ce qu'on appelle un état de nature dans lequel, antérieurement à la société, en fait, on ne peut pas vivre de manière pleinement épanouie. Nous sommes pleinement libres de faire ce que l'on veut et chacun donc est en concurrence. C'est ce qu'il appelle la guerre de tous contre tous. Et c'est dans cet état qu'il nomme effectivement le fait que l'être humain serait un loup pour l'homme. Cette définition est très pessimiste, mais elle nomme le fait que chaque être humain, naturellement, avant toute société, est avant tout un être libre qui fait un petit peu ce qu'il veut, au point donc de pouvoir voler ses congénères, de pouvoir obtenir des biens par tous les moyens qui sont à sa portée. La société, elle apporte quelque chose qui est la sécurité et la propriété. En fait, pour Thomas Hobbes, on fait un contrat entre chaque individu, on cède une partie de notre liberté. Pour Thomas Hobbes, c'est un souverain, mais en tout cas, c'est une une liberté que l'on va céder à chacun. C'est ce qu'on appelle une théorie contractualiste en philosophie. On fait un contrat un petit peu tacite qui va permettre l'avènement de cet état civil. On passe donc d'une vie qui, pour Thomas Hobbes, est brève, malheureuse, solitaire, dirigée vers notre survie, quasi bestiale, vers une vie qui est donc potentiellement, certes, qui nécessite de devoir mettre un petit peu un frein à notre liberté, mais qui nous permet de vivre de manière plus épanouie. Le fait que nous soyons en société, c'est certainement une preuve que notre nature humaine, en fait, doit aller dans cette direction-là, c'est nécessaire. Et Thomas Hobbes dresse le constat que, en fait, on pourrait le contredire en lui disant « mais en fait, non, peut-être que dans la nature, on n'est pas aussi méchants les uns envers les autres. Peut-être que avant la société, on se tirait pas autant dans les pattes, si je peux me permettre l'expression. » Thomas Hobbes nous met le doigt sur des pratiques qu'on a tous, qui est de, par exemple, fermer sa porte à clé en sortant chez soi le matin. Ou qui est de faire en sorte qu'on ne nous vole pas nos objets en les mettant dans des coffres, en les mettant dans des lieux sûrs. Et ces comportements-là, pour lui, ce sont en quelque sorte un reste de notre nature humaine un peu essentiellement méfiante. On a en effet, selon Hobbes, cette méfiance vis-à-vis de nos congénères. Et cette méfiance, pour autant, elle est conciliable avec cet état civil dans lequel les lois assurent le bon fonctionnement de l'État et dans l'idéal, donc, permet l'avènement de la justice et d'une vie qui est plus accomplie et qui est plus authentiquement humaine.
Est-ce que les philosophes ont pensé une conciliation entre notre liberté individuelle et la nécessité de vivre en société ?
Alors oui, on peut penser à une nouvelle image qui est apportée par Emmanuel Kant, qui utilise une métaphore un petit peu sylvestre ou arboricole au choix, c'est effectivement celle des arbres. Lorsqu'on voit par exemple un arbre isolé dans un champ, l'arbre est un petit peu rabougri, il est un petit peu petit, il s'étale un petit peu en termes de branches, mais ce n'est pas un arbre qui est pleinement, qui n'est pas vraiment dans une forme de plein accomplissement lui-même. A l'inverse, lorsqu'on se balade en forêt, on voit que les arbres doivent en fait rivaliser pour atteindre la lumière, et par ce biais-là, en fait, ils doivent donc générer des gros troncs, générer une hauteur pour atteindre donc le soleil. Et cette concurrence entre les arbres dans la forêt fait que l'arbre atteint en quelque sorte son plein potentiel, selon Kant. Et donc ici, on voit que dans le cadre d'une forêt, le fait d'être les uns à côté des autres, qui leur permettent d'atteindre leur plein potentiel. Cette métaphore, on peut l'appliquer aux humains. Puisqu'en effet, ce que Kant nomme ici, c'est un processus qu'on appelle l'insociable sociabilité. L'être humain, fondamentalement, est un être qui est un petit peu insociable, comme nos porcs-épics de tout à l'heure. C'est un individu qui, en fait, souhaite vivre un petit peu de manière solitaire. Sauf que quand il fait ça, en fait, finalement, il n'est plus en relation les uns avec les autres, il n'a plus cette capacité de pouvoir atteindre aussi ce plein potentiel de l'humanité qui est la vie en société, qui est considérée un peu comme une forme d'idéal. Et donc, la sociabilité est contrainte sur l'être humain, c'est ce que Kant appelle une ruse de la nature, et de la même manière que les arbres en forêt donc, poussent plus grands, de manière plus forte, eh bien, l'être humain, par cette nécessité qu'il a de vivre en société, rentre dans une compétition qui en réalité lui fait du bien. La liberté, donc ici, certes, est un petit peu contrainte dans la société, mais en même temps, on en gagne une qui est d'un degré en fait qui est plus élevé en quelque sorte. C'est que dans le cadre de l'État, nous donnons nous-mêmes des lois. Nous avons nous-mêmes donc ici un renoncement d'une liberté qui est une liberté naturelle, mais qui devient une liberté civile, qui est encadrée et qui en fait permet de gagner un surplus d'humanité selon Kant.
Est-ce que vous avez des exemples pour nous montrer comment concilier notre liberté et les lois qui encadrent nos actes ?
Alors j'en aurai deux qui sont assez clairs. Par exemple la liberté d'expression, tout simplement, le fait que on pourrait donc affirmer qu'on est libre de dire tout ce que l'on pense, mais cette liberté doit être encadrée et limitée par des lois contre la diffamation, contre les discours de haine, afin de protéger les individus et de maintenir une forme d'ordre. D'autre part, peut-être un cadre un peu plus pratique, mais si on prend le code de la route, cela est quelque chose qui est assez flagrant, effectivement, on pourrait se permettre de conduire un peu comme on veut, mais si chacun conduisait comme il l'entend, et bien dans ce cas, les accidents seraient fréquents, le danger constant ne pourrait pas rouler. Donc les règles de la circulation, bien qu'elles nous contraignent, bien qu'elles restreignent notre liberté individuelle, en même temps, elles sont nécessaires parce qu'elles nous protègent, elles assurent la sécurité de chacun et permettent un usage ordonné, finalement, de notre liberté. La réflexion, donc, ici, en politique, ici, elle s'appuie sur le fait qu'il faut chercher des compromis qui respectent, d'une part, des droits individuels, tout en assurant ce qu'on appelle un bien commun. Et cette conciliation-là permet un vivre ensemble qui assure, donc, idéalement, le quotidien.
Merci beaucoup.
Des centaines de gens dans ce mode de vie. Je dis pas adieu quand ils repartent. Je leur dis toujours, on se recroisera sur la route. Et on se retrouve. Les au revoir ne sont pas des adieux.
Cham philo. Parce qu'au lycée, la philosophie ne se trouve pas seulement dans les manuels.
Cham philo. Elle résonne dans chaque question, dans chaque débat de la vie quotidienne.